Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce mardi 24 décembre, le débat en Australie si oui ou non on devrait payer les pompiers volontaires. En Australie-Méridionale, un fonds d'urgence a été mis à la disposition des personnes directement touchées par les feux de brousse. Le tennis, l'Open d'Australie commence le 20 janvier prochain et les champions simples hommes et femmes empocheront chacun 4,1 millions de dollars, soit une augmentation de 13,6% par rapport à l'année dernière. En Australie, Shane Fitzsimmons, commissaire des services d'incendie en milieu rural de la Nouvelle-Galles du Sud, a rejeté les nouvelles selon lesquelles des volontaires qui luttent contre les incendies à travers l'État devraient être payés. Cette nouvelle fait suite quelques heures seulement après que le président de la New South Wales Firefighters Association, Mike Holton, a appelé le gouvernement à reconnaître le fardeau financier qui accompagne le bénévolat. Shane Fitzsimmons et le gouvernement fédéral ont cependant rejeté l'appel et réitéré qu'un paiement irait à l'encontre de l'esprit de volontariat. Le chef de l'opposition, Anthony Albanese, a demandé au Premier ministre que le Conseil des gouvernements australiens se réunisse le plus tôt possible, plutôt qu'en mars prochain. Une demande qu'il aurait adressée à Scott Morrison en novembre dernier. Et puis, il demande qu'une compensation soit payée aux pompiers volontaires.
This is not business as usual. The people I've spoken to, who have decades of experience, are saying that they've never seen anything like this. There are record numbers of homes have been lost. There have been lives that have been lost. This is a crisis. It requires an appropriate response.
Le Premier ministre Scott Morrison défend sa politique sur le climat. Il est critiqué pour ne pas avoir adapté son approche climatique à la suite de l'urgence, avec la hausse des températures et des conditions de sécheresse étant blâmée pour l'intensité des incendies. Les critiques ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le gouvernement soit divisé sur l'action contre le changement climatique, le vice-premier ministre Michael McCormack admettant que davantage doit être fait. Scott Morrison estime cependant que la politique actuelle du parti est adéquate.
What you run government on and the decisions you take are based on those important facts and the facts when it comes to addressing climate change and the facts on when it comes to you know ensuring we have a strong economy which provides people with the livelihoods that they depend on they remain the same and so we will remain very focused on those policies and implementing them in the way we promised to at the last election, which was only 6 months ago.
En Australie-Méridionale, un fonds d'urgence a été mis à la disposition des personnes directement touchées par les feux de brousse. 87 maisons ont été confirmées détruites. Le fonds d'urgence aidera les gens à reconstruire leur vie, selon le chef de l'Australie-Méridionale, Stephen Marshall. En Nouvelle-Galles du Sud, les conditions devraient se détériorer la semaine prochaine. Un peu moins de 100 incendies brûlent à travers l'État, avec des conditions plus fraîches et plus calmes qui soulagent les pompiers. Le commissaire adjoint du service d'incendie de la Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers, a déclaré que les équipes de pompiers espéraient maîtriser les incendies dans les prochains jours. L'ancien chef du Victoria, John Kane, est décédé à l'âge de 88 ans. John Kane a été député travailliste de l'État pendant 16 ans et a été chef du Victoria de 1982 à 1990. Il a subi un accident vasculaire cérébral le 10 décembre dernier et a été hospitalisé. Selon sa famille, il est décédé aux premières heures d'hier, lundi matin. Steve Brax, ancien chef travailliste du Victoria, a rendu hommage à John Kane.
John was a breakthrough premier of Victoria for the Labor side of politics in that for the first time in 27 years, he won with a significant majority in 1982. He held office for 3 terms. And of course, he set up really the mode of moderate and modest Labor governments, which have occurred ever since.
Et puis la recherche d'un homme du Victoria disparu dans la forêt tropicale de Daintree, dans le nord du Queensland, qui est infestée de crocodiles. Et ces recherches devraient reprendre aujourd'hui. La police craint pour la survie de Milan Lemic, 25 ans, qui a été vu pour la dernière fois à Baird's Crossing, près du village d'Upper Daintree, dimanche dernier. Une 4x4 qui appartient à Milan Lemic se serait enlisée dans la forêt tropicale. Un témoin proposant d'emmener un tracteur pour déloger la 4x4, mais lorsque le témoin est revenu, 20 minutes plus tard, Milan Lemic avait disparu. La National Retail Association prévoit des dépenses records le lendemain de Noël pour Boxing Day en Australie. La National Retail Association prévoit que les Australiens dépenseront 2,6 milliards de dollars jeudi prochain, en hausse par rapport à l'année dernière. Le directeur de la National Retail Association, Dominic Lamb, déclare que plus de 800 millions de dollars devraient passer par les caisses en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria. Les achats en ligne devraient augmenter de 23%. En Algérie, Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, est décédé hier des suites d'une crise cardiaque. Il avait 79 ans. Lisa Fabian, Radio France Internationale.
Ahmed Gaïd Salah a fait sa dernière apparition publique il y a 4 jours lors de l'investiture du nouveau président algérien Abdelmajid Tebboune. Celui-ci a longuement remercié le général avant de le décorer de l'ordre du mérite national au rang de sabre, une distinction réservée jusque-là au seul chef de l'État. Il faut dire qu'Ahmed Gaïd Salah s'était imposé ces derniers mois comme le véritable visage du pouvoir en Algérie. Ancien pilier du système, fidèle parmi les fidèles de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika qu'il a finalement poussé à la démission, Ahmed Gaïd Salah s'était placé en première ligne face à la contestation populaire. Toujours vêtu de son uniforme, il était le seul à se montrer et à s'exprimer publiquement, multipliant les mises en garde aux contestataires et les exhortations à juger les anciens proches du clan Bouteflika. Mais en dépit d'une vaste opération anticorruption visant les réseaux du pouvoir, le chef d'état-major ne cède pas face au mouvement populaire qui continue de réclamer une véritable transition démocratique. Après 2 reports, Ahmed Gaïd Salah impose une élection présidentielle fixée au 12 décembre. 11 jours après ce scrutin, alors que le Irak continuait de réclamer son départ, sa mort aura finalement pris tout le monde de court en Algérie.
En Arabie Saoudite, condamnation à mort de 5 personnes pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le journaliste saoudien a été tué en octobre de 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie. Mais Agnès Callamard, la rapporteure spéciale des Nations Unies, dénonce l'absence de justice dans ce procès. On l'écoute sur RFI.
Malheureusement, je m'y attendais tout à fait. Je ne pensais pas que la justice pourrait être rendue dans le cadre du procès qui a lieu depuis le mois de janvier, et le verdict qui a été rendu aujourd'hui rentre tout à fait dans ce au quoi je m'attendais. Qu'il s'agit bien d'un procès qui s'est attaqué aux petits, aux petites gens, ce que l'on pourrait qualifier comme les exécutants du crime. La personne la plus haut gradée qui a été punie aujourd'hui, il s'agit de Moutreb, qui est un agent, je dirais, de niveau plutôt moyen dans une chaîne de commandement. Donc, toutes les personnes qui ont agi au-dessus de Moutreb, elles, s'en sortent sans aucun problème. Et la chaîne de commandement n'a toujours pas fait l'objet d'une enquête.
En Syrie, dans la ville de Raqqa, ancienne capitale de Daesh, les équipes recherchent toujours les morts 2 ans après la libération de la ville. Il y aurait 2500 victimes de l'État islamique, les victimes d'exécutions massives, de décapitations et d'otages brûlés vifs. Les équipes travaillent nuit et jour pour identifier les dépouilles dans les charniers. Un des grands noms de la mode, Emmanuel Ungaro, est décédé dimanche dernier. Son portrait avec Muriel Mahalouf pour RFI.
Couleurs vives, mélange de matière et d'imprimés, Emmanuel Ungaro superpose avec audace les rayures au carreau, les fleurs au poids et affirme ainsi son style dans les années 60. Il est aussi le premier à juxtaposer une tunique longue ou un manteau gilet au pantalon dans des matières fluides qui évitent d'alourdir la silhouette. Deuxième d'une famille immigrée italienne de 6 enfants, le jeune homme s'initie d'abord auprès de son père, tailleur à Aix-en-Provence. mais très vite, il monte à Paris à l'âge de 23 ans, où il rencontre Christophe Balenciaga, le seul maître qu'il se reconnaisse. Il travaille 6 ans chez le couturier espagnol, puis 1 an chez Courrèges, avant de lancer sa propre maison en 1965. Au fil des ans, il bâtit un empire, habille les vedettes comme Catherine Deneuve ou Anouk Aimée, crée sa marque de prêt-à-porter pour femmes, puis pour hommes, ses produits de luxe, parfums, chaussures, lunettes, pour se retirer du monde de la mode en 2004, la mode qui l'aura marqué de son style sensuel et haut en couleur.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 33 degrés, Adélaïde 34, Melbourne 25, Hobart 22, Canberra 29, Sydney 26 degrés, Brisbane 31, Darwin 36 et à Alice Springs maximale de 45 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 24 décembre, le débat en Australie si oui ou non on devrait payer les pompiers volontaires. En Australie méridionale, un fonds d'urgence a été mis à la disposition des personnes directement touchées par les feux de brousse. Fin du journal et merci de rester avec nous. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.